Je vous laisse avec quelques mots de David Hurst, notre coprésident, coprésident de la Peña et producteur chez Dublin Film.
Bonjour à tous, merci d'être là. Donc c'est en effet la 8e édition de Territoire d'Images, la 2e à Poitiers. Je voulais remercier l'agence ALCA qui est partenaire de la manifestation, ainsi que nos partenaires annuels que sont la région Nouvelle-Aquitaine, la DRAC, Bordeaux Métropole, et j'ai oublié la ville de Poitiers pour cette édition en particulier de Territoire d'Images. Donc merci à ces partenaires. On a eu déjà ce matin un premier temps entre des délégations d'associations professionnelles de la région et Charline Claveau, la vice-présidente de la culture du conseil régional et l'agence ALCA également. Et donc on entame maintenant la suite de cette édition de Territoire d'Images avec des tables rondes qui vont avoir lieu cet après-midi et toute la journée demain, donc en public. Donc on a choisi cette année d'intituler ces deux journées voilà, filière cinéma et audiovisuel en région. Peut-on séparer l'art de l'industrie? Puisque en juillet, à l'issue d'une concertation qui est encore en cours entre les professionnels et les institutions régionales, on nous a annoncé qu'il y aurait éventuellement une refonte des soutiens sélectifs selon le principe d'une division plus ou moins entre des films à forte valeur artistique et des films à fort impact économique. Donc évidemment, ça nous questionne. On est très attentif et très ouvert et on attend encore de voir exactement comment cela va être mis en œuvre exactement. Donc on est, pour l'instant, il est encore trop tôt pour être inquiet. Mais en tout cas, ça nous semblait intéressant de poser cette question. Et donc on va commencer avec une première intervention de Michel Gomez et de Milena Poilot de TS Productions sur une histoire du cinéma, une histoire de l'économie du cinéma, pardon. Bon voilà, ils vont prendre la main. Moi je vais faire une introduction encore de 3-4 minutes, mais ça me semble important. En fait, j'ai trouvé hier un édito de l'Acide qui m'a semblé d'une pertinence extrême. Et en fait, je vais le lire, ça prend 3-4 minutes. Mais voilà, ça me semble très important parce qu'il y a des phrases clés, me semble-t-il, pour la journée et demie qui arrive. Alors, donc ça a été publié hier sur le compte Instagram de l'Acide. Depuis plusieurs années, la culture et le cinéma indépendant subissent une érosion lente et systématique. Les récentes coupes budgétaires dans les collectivités territoriales, touchant des dispositifs tels que collèges au cinéma ou des institutions comme la maison Julien Gracq, en sont la dernière indication à date. Une réalité qui, au-delà des chiffres, illustre une vision réductrice et dangereuse, la culture pensée comme variable d'ajustement, jusqu'à devenir pour certains une cible politique. Déjà mise en péril par sa qualification comme non essentielle pendant la crise sanitaire du Covid, la culture est reléguée au rang de compétence non obligatoire. Contrairement à l'éducation ou la santé, la culture ne bénéficie donc d'aucune protection structurelle. Elle devient alors l'un des premiers domaines sacrifiés face aux contraintes budgétaires. Une logique comptable à première vue qui nie son rôle fondamental dans la construction de l'esprit critique et du vivre ensemble. Ce n'est pas anodin. Et au-delà des coupes se cache une volonté de déprécier la culture, souvent caricaturée comme une lutte élitiste ou un repère d'associations politisées, sous-entendu politiquement de gauche. Ces discours, portés par certains élus, traduisent d'une part une méconnaissance de la diversité politique des acteurs culturels et de l'autre, plus inquiétant, la libération d'une parole anticulturelle accompagnée d'un silence complice d'une partie de la classe politique. En témoignent les déclarations idéologiques qui accompagnent la réduction drastique de 73% du budget alloué à la culture en Pays de la Loire. L'argument régulièrement brandi de la rentabilité traduit une vraie incompréhension des enjeux même de la culture. Pourvoyeuse importante d'emplois, elle n'a pas pour autant vocation à s'articuler à l'aune des profits financiers. Qu'une forme de protectionnisme existe à l'égard des biens culturels est inhérent à leur nature même, sans quoi la seule culture qui s'impose à tous est celle validée par le marché ou par le pouvoir. S'attacher à nourrir nos imaginaires, à déconstruire les clichés, à faire vivre la diversité et à nous offrir des récits alternatifs et collectifs. Voilà ce que toute société attend de la culture. Nous savons bien que dans un monde en crise, ce n'est pas en rétrécissant les perspectives et en limitant les imaginaires que l'on s'en sort. Aucun État, aucune société n'a jamais été sauvée à coup de pénitence budgétaire. Défendre le cinéma indépendant et la culture, son accès pour toutes et tous en général, c'est refuser de voir l'obscurantisme prendre racine. C'est affirmer que l'accès à l'art et au savoir qu'il prodigue est un droit et non un privilège. Que la culture n'est pas un supplément d'âme anecdotique, mais bien le socle fondamental d'une société éclairée. La culture, ce n'est pas ce qui reste quand on a tout oublié, mais ce qui reste à connaître quand on ne vous a rien enseigné, rappelait Jean Vilar. Dans un moment historique comme celui que nous vivons, où certains détenteurs du pouvoir financier n'ont jamais été aussi proches du programme de l'extrême droite, il nous revient de nous mobiliser, de ne pas laisser les coupes budgétaires grignoter ce qui fait société. Ce dont les décideurs actuels seront comptables ensuite sera infiniment plus grave que des points du PIB. La culture n'est pas un luxe, elle est une nécessité. Il nous appartient à tous et toutes de la défendre. Merci et je vous donne la parole.
On peut commencer par dire que c'est aussi une richesse économique. Hein. Il y avait une étude qui a été faite, alors sauf que je n'ai pas les chiffres en tête, hein, mais par l'avant-dernière, avant-avant-dernière présidente du CNC, comment il s'appelait bon, bref. Et en fait, c'est en termes de richesse créée, c'était autant que l'industrie pharmaceutique. Et je crois même que l'industrie automobile, en plus, en ce moment, voilà. Donc, en fait, c'est vraiment important de le dire aussi. Et ça ne s'empêche, c'est formidable ce qu'ils disent, l'acide. Mais c'est une richesse économique, quoi. Donc, en France, non ? Pardon, c'est toi qui vas dire ça, Michel.
Non. OK, bonjour. Je m'appelle Michel Gomez. Je suis le délégué de la mission cinéma de la ville de Paris. La raison pour laquelle je suis ici, ce n'est pas parce que je travaille à Paris, c'est parce que j'ai... eu un début de carrière dans l'économie, puisque je suis économiste de formation à Paris 9 Dauphine, dans l'économie de l'innovation et des déséquilibres. J'ai continué à faire de l'économie, puis après ma vie a croisé le monde du cinéma, que ce soit un itinéraire plutôt sympa d'ailleurs de ma vie professionnelle, puisque je suis passé par la quinzaine des réalisateurs à Cannes, la SRF, l'ARP, et je suis à la mairie de Paris depuis 15 ans, je la quitte bientôt. Et je me suis occupé à la mairie de Paris de sujets dont vous avez dû déjà parler, que ce soit le problème des salles de cinéma, les tournages, l'éducation à l'image, la politique culturelle. Voilà, donc l'idée du dialogue en fait, qu'on va avoir, c'est plutôt un dialogue. Je vais essayer, moi, non pas de raconter l'histoire économique du cinéma, parce que je pense qu'il faut 10 ans, et puis j'en serais pas capable, mais au travers de quelques concepts clés de ce qu'est l'économie du cinéma, qui, je pense, seront enrichis et auxquels tu donneras plus de vie. L'idée va être de démontrer, et c'est complémentaire à ce que tu viens de dire, c'est qu'on doit être capable de démontrer que la diversité est un intérêt économique. C'est-à-dire qu'on a souvent le réflexe, et on l'a eu dans les négociations de l'OMC, du GATS, hein, on a eu tout le temps la tradition française qui consistait à dire « mais le cinéma, ce n'est pas un bien comme un autre, c'est de la culture, etc. » C'était un argument qui nous plaisait beaucoup à nous, Français, mais je peux vous dire qu'il est totalement inaudible, par exemple, par les Allemands, totalement inaudible par les Anglais, je ne parle pas des Américains. J'ai eu la chance d'arriver dans ma vie professionnelle, dans les organisations professionnelles, au moment de ces négociations du GATT, et notre propos a été de démontrer que si le secteur n'est pas régulé, n'est pas encadré, il perd de l'efficacité économique. Et ce type d'argument vient des caractéristiques de l'économie du cinéma qu'on va présenter, et je peux vous dire qu'il donne beaucoup de force à des raisonnements auprès de gens qui sont plutôt réfractaires au monde de la culture. C'est-à-dire que vous dites à un Allemand, si vous ne régulez pas votre secteur cinématographique et audiovisuel, vous aurez en face de vous une position dominante américaine et vous allez perdre votre marché, je peux vous dire qu'il le comprend très vite. Donc l'idée de l'après-midi, c'est au travers de quelques concepts tout simples qui s'enchaînent, de montrer pourquoi il faut que le secteur soit régulé, encadré, et comment il produit de la diversité. Et la diversité, ce n'est pas le grand mot diversité culturelle, c'est la diversité économique, c'est bon, c'est efficace économiquement. Voilà. Une remarque, madame la productrice, avec ton micro, parce que comme j'ai malheureusement
non, mais
appris qu'on était enregistré...
L'Allemagne, ils mettent, je crois, beaucoup d'argent dans le cinéma, mais le cinéma allemand, est, voilà, je ne dis pas qu'il n'y a rien du tout, mais c'est, ça n'a rien à voir avec... et en termes de part de marché, je ne sais pas combien va être la part de marché du cinéma français cette année, mais on est entre 30 et 40 % quand même. Quoi.
Ouais, on sera
et
à 40, oui.
Voilà, voilà. Bah, il n'y a pas d'autres pays, à part, je pense, la Corée. Et bon, après, je ne parle pas de l'Inde, et de, c'est encore autre chose, mais...
L'Inde, c'est autre chose.
Mais voilà, et, donc, c'est, et ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de cinéma qui est mis dans le cinéma, en Allemagne, dans le cinéma. Ils ont d'ailleurs longtemps financé Hollywood, les Allemands. Quoi. Donc oui, enfin bon.
Ok, allons-y. Alors, première étape, deux caractéristiques qui sont d'ailleurs très liées de l'économie du cinéma. Deux concepts que vous connaissez tous, je pense, très bien, mais qui ont une force très importante, sous-jacente, c'est le concept de filière. Et le concept de chronologie. Alors, dès qu'on entend le mot filière dans le cinéma, c'est simple, hein, on a une filière très simple. Producteur, distributeur, et on va s'arrêter à exploitant de salle. Voilà. Ça, c'est la filière historique du cinéma. Bien évidemment, cette filière est en train de connaître des évolutions. Elle est en train de s'allonger. Elle est, vous le savez, c'est pas l'objet d'aujourd'hui, mais elle est surtout en train de changer de nature, puisque... cette filière qui était assez étanche avec d'autres secteurs d'activité s'est retrouvée mélangée avec des secteurs tels que les télécommunications, ce qu'on ne pouvait pas imaginer, l'informatique, etc. Donc on a une filière qui est de plus en plus riche, de plus en plus longue. Et en fait, dès que vous entendez le mot filière, vous devez, quel que soit le secteur d'activité, vous devez avoir plusieurs réflexes très simples qui sont qui dit filière dit... risque d'intégration verticale, bah ça veut dire quoi ? Bah ça veut dire je fais tous les métiers. Et là, on a un exemple assez intéressant qu'on va avoir sous les yeux avec nos amis sympathiques américains de Disney, puisque le rêve de Disney depuis qu'ils sont nés, c'est d'avoir une relation directe avec leurs consommateurs. Si on avait dit à Disney il y a 20 ans qu'ils allaient être capables, dans certains pays, dont la France, d'avoir une relation directe avec leurs consommateurs, ils n'y auraient pas cru. Or, puisque Disney, vous le savez, va lancer, je pense, le 1er janvier prochain, une plateforme Disney à 6 mois, avec les mêmes caractéristiques d'offre que Canal, avec des films à 6 mois, ils vont emmagasiner les données sur leurs clients et ils vont nous vendre du Disney à tout va. C'est-à-dire qu'on voit bien que la filière Disney, c'est le typique de l'intégration verticale. Je produis, je distribue... mais je distribue en salle, je distribue à l'étranger, je distribue à la télé, et maintenant j'ai ma plateforme. C'est-à-dire qu'on a, donc dès que vous entendez le mot filière, il y a ces phénomènes d'intégration, et on voit bien que ça, pour les indépendants, c'est un enjeu majeur, et que si les systèmes de soutien ne permettent pas de lutter contre cette intégration verticale, on a des vrais soucis, puisque le pouvoir change d'endroit dans la filière. Donc premier concept, filière, alors... derrière le mot filière, on peut envisager d'autres choses, mais garder au moins ça, et garder aussi l'idée quand même évidente, mais vous connaissez tous ici, c'est au sein d'une filière, il y a des problèmes de rapport de force. C'est-à-dire, quel est le pouvoir de négociation d'un producteur avec un distributeur ? Quel est le pouvoir de négociation d'un distributeur avec une salle ? Voilà, comment les équilibres se font au sein de la filière. Deuxième concept, et après je te passerai la parole, c'est bien évidemment la chronologie des médias. Ça c'est cohérent avec ce que je viens de dire. La chronologie des médias, c'est l'organisation dans le temps des modes d'exploitation d'un film. Bah, c'est aussi bête que ça. D'ailleurs, je rappelais l'autre jour à des gens qui ont des projets de salles de cinéma à Paris qu'il existait, hein, dans les années 50-60, une chronologie des salles de cinéma. C'est-à-dire qu'à Paris, il y avait des salles de première exclusivité dans certains quartiers, de la deuxième exclusivité, de la troisième. C'est-à-dire qu'il y avait une chronologie organisée. Or, cette chronologie organisée, qui est bien évidemment, hein, vous le savez tous ici, l'argument économique le plus fondamental pour se battre contre la licence globale, parce que si vous avez une licence globale, nos amis démagogiques parfois écologique sur la licence globale, ils oublient une chose, c'est que si vous avez une licence globale, vous n'avez plus de chronologie, vous n'avez plus de séquence d'exploitation d'un film, et effectivement, vous ne pouvez plus cumuler des financements. Voilà. Donc, la chronologie est un élément aujourd'hui fondamental. Pourquoi ? Parce qu'il est en train de bouger. On a une chronologie qui est de plus en plus épaisse, de plus en plus complexe, avec de nouveaux diffuseurs et avec des problèmes d'équilibre complexes, parce que la question se posera à un moment de comment on fait pour que de nouveaux diffuseurs s'insèrent dans cette chronologie, je pense en particulier aux plateformes, sans déséquilibrer l'ensemble du système. Avec, je le dis entre parenthèses, une grande complexité, c'est qu'on a de nouveaux acteurs dans cette filière, avec cette chronologie, qui sont des acteurs qui ont des modèles économiques qui n'ont rien à voir avec le cinéma. Si vous voulez, à chaque fois que j'ai à tresser ces sujets-là, le gag est de dire que pour Amazon, c'est compliqué de faire de la pub sur des entrepôts. Vous voyez, même si vous êtes un grand créateur, faire un film sur un entrepôt, c'est pas fun, quoi, c'est pas vendeur. Donc vous vous dites, je fais une chaîne de télé. Voilà. Apple, pareil. Ils se disent, pourquoi nous, on est capable aussi de faire des contenus, mais c'est pas le même modèle économique que le reste de la filière. Donc ça ajoute de la complexité. À toi.
Une échelle micro, je ne peux parler que de ce qu'on fait. Nous, on est une société de production indépendante, comme il y en a énormément en France, et c'est absolument super. Et je pense que quand on va un peu à l'étranger, on se rend compte de la chance incroyable qu'on a d'avoir un système qui mélange le public et le privé, et qui est évidemment un système sophistiqué, donc fragile. Voilà, c'est un peu ça. Et puis là, je regarde notamment Jean Raymond parce que je pense à la richesse depuis que nous on a commencé, qui sont le fait qu'il y a eu des financements qui sont venus se rajouter, et notamment évidemment les financements régionaux, départementaux, les villes, etc. Qui sont, nous, les premiers films qu'on a fait, enfin pardon, je pense un peu autre chose, mais on les a fait grâce aux régions, en fait. Le Bleu des Villes de Stéphane Brézé, c'était la PCVL à l'époque. Le Fils de l'épicier, on avait réussi à cumuler deux régions. Et sinon, aux violences des échanges en milieu tempéré, voilà. C'est, pour nous, c'est une des... Donc ça veut dire que, effectivement, les ressources qui sont fléchées, si on peut dire ça comme ça, pour le cinéma indépendant, elles sont absolument fondamentales. Et quand on parlait de diversité, effectivement, moi je pense que c'est un mot qui m'obsède totalement, parce que je pense que c'est la vraie richesse du cinéma français. Et là, on le voit en salle cette année. C'est-à-dire que si on commence à faire... j'ai pas sauté les étapes, mais... D'avoir plusieurs guichets sous prétexte d'attirer des films, voilà, de faire un guichet pour les films à plus fort potentiel commercial et puis un guichet pour les films plus les films d'auteur, je pense que c'est une erreur fondamentale. Pourquoi ? Parce qu'en fait, vous savez, il y a quand même un principe avec un film, hein, c'est que vous faites un film, vous ne savez jamais s'il va marcher ou pas, que ce soit un gros film ou pas. Après, les échelles ne sont pas les mêmes, les risques ne sont pas les mêmes. Enfin, en ce moment, je pense que vous avez dû tous voir l'histoire de Souleyman. L'histoire de Souleyman, alors je ne connais même pas le budget, mais je pense que ça va être 1,2 million, enfin c'est un très petit budget. Le film va faire 500, enfin il a dépassé 500 000 entrées, je crois. Bon, alors ça c'est, voilà, donc c'est là où il faut faire très attention, parce que, mais il n'y a pas que moi qui dis ça, hein. Moi je me souviens m'être battue un peu avec Jean-Claude Susfeld sur un certain nombre de sujets, mais pas là-dessus, je veux dire, même UGC, il savait en tout cas très bien l'importance de la richesse et de la diversité du cinéma français, pas seulement, évidemment, pour le développement des réalisatrices, des réalisateurs, des talents multiples, des producteurs, des scénaristes, etc., mais aussi parce qu'il y a un public, en fait. Voilà. Alors, effectivement, il faut beaucoup de films pour arriver à faire qu'il y ait quelques films qui soient des succès, mais cette année, par exemple, c'est une année assez remarquable de ce point de vue-là. Bon, je te laisse repartir dans ta...
Je repars. Sur les deux premières caractéristiques que j'ai évoquées, bien évidemment, vous voyez que c'est un outil parfait, si vous voulez, définir l'évolution du cinéma. C'est-à-dire que vous prenez la filière, vous prenez la dimension temporelle, vous regardez ce qui se passe à la fin du 19e siècle, 1940, 1960, et puis après le tournant des années 80, et avec ces deux concepts-là, vous avez les principales évolutions du secteur. Une fois qu'on a planté ce décor de filière avec sa dimension temporelle, qui est la chronologie, on peut mettre en avant deux caractéristiques de l'économie du cinéma, caractéristiques qui, d'ailleurs, posent beaucoup de problèmes. Je ne sais pas s'il y a des économistes ici, mais qui posent de gros problèmes aux économistes, puisque c'est, en économie, on aime bien, entre guillemets, des biens homogènes, sur lesquels, entre guillemets, c'est le prix qui fait la différence. Voilà, on aime bien des concepts de productivité, on aime bien des concepts de rendement croissant, etc. Or, vous allez le voir, les deux principales éléments caractéristiques de l'économie du cinéma, elles sont contraires aux règles de l'économie générale. Ce qui d'ailleurs justifie le fait que, contrairement aux règles de l'économie générale où les modèles valrassiens démontrent qu'il faut laisser le marché libre, c'est ces caractéristiques qui expliquent justement qu'il faut réguler cette économie. Et ces deux caractéristiques, elles sont super simples. On les entend toujours dans les discours des producteurs en général. En tout cas, la première caractéristique, c'est de dire que c'est une économie de prototype. Voilà. Alors c'est génial parce qu'on dit que c'est une économie de prototype, c'est une industrie artisanale, ça il faut le faire, hein, de parler, ou on dit que c'est un artisanat qui mobilise des moyens industriels. Voilà, toutes les formules sont possibles, mais on voit bien qu'on a un côté à la fois industrie, puisque on voit bien qu'il y a des moyens mécaniques dedans, qu'il y a de l'investissement, qu'il y a tout ça, mais en même temps, on est sur des biens qui sont totalement différenciés. C'est-à-dire l'économie du cinéma, c'est l'économie de la différenciation. C'est-à-dire que si vous commencez un projet en vous disant, on va vous demander, qu'est-ce qu'il a de nouveau ton projet ? Voilà. C'est bien ça, on est dans la différenciation qui est le contraire pour les économistes de l'homogénéité. Voilà. Donc, faire du cinéma, c'est produire de la différenciation. Ça veut dire que chaque film, chaque bien est unique. Voilà. Alors, une fois qu'on a dit ça, on peut en tirer des conclusions délirantes. Alors, des conclusions, la première évidente, c'est que puisque ce bien est unique, on est en situation de monopole. C'est-à-dire, il n'y a qu'un producteur de Titanic. Il n'y en a qu'un. Il n'y en a pas deux. Voilà. Et sur Titanic, il est tout seul. Et il fait ce qu'il veut. Donc, quand on est en situation de monopole et qu'on est propriétaire d'un bien différencié, il faut aussi, bien évidemment, le protéger. On ne va pas faire une conférence sur la propriété intellectuelle. Mais derrière cette logique du monopole et de la différenciation, il y a tout l'environnement, entre guillemets, de propriété intellectuelle. Mais il y a d'autres éléments. C'est-à-dire que quand vous êtes en situation de monopole, dans un secteur très particulier, sur lequel le premier marché, c'est un marché où les prix sont les mêmes, quel que soit le bien. C'est-à-dire que ça vous paraît, vous, évident. C'est-à-dire que quand vous allez au cinéma, vous allez payer, alors ça dépend des cinémas, hein, vous allez payer 7 euros, 8 euros, 9 euros, mais quel que soit le film. C'est-à-dire qu'on a des biens qui sont complètement différenciés et sur lesquels le prix n'est pas fixé, entre guillemets, par le marché. Il est fixe, quel que soit le... Ça veut donc dire que si vous ne pouvez pas jouer sur le prix, parce qu'il y a un moyen de gagner de l'argent, c'est d'augmenter vos prix. Mais si vous ne pouvez pas, vous, en tant que producteur, jouer... à moins que toi, tu arrives à faire évoluer les prix dans les salles de cinéma, je ne suis pas sûr. Ça veut dire que la seule solution que vous avez, c'est de vouloir maximiser le nombre d'entrées. On voit bien la logique du volume qui s'introduit par cette règle-là. Donc voilà sur cette première caractéristique. Avec un petit mot, là, j'en ai parlé, c'était hier matin, voilà, j'avais un sympathique Américain, je vais pas parler que des Américains, mais tu le connais, non mais c'est un Américain sympa, c'est Olivier Snanouch de Warner. Voilà, il voulait m'interroger sur un certain nombre de sujets, parce qu'ils sont en train de revoir leur organisation, puisque c'est une boîte qui a été rachetée par des gens des télécoms, qui est redevenue normale, quoi, l'horreur, quoi. Ils ont vécu en 10 ans tous les affres. Mais on ne veut pas être enregistré complètement, parce qu'on dit beaucoup de conneries aussi, donc c'est pour ça qu'on enlève le micro parfois. Et il me disait, il y a une grande évolution dans le comportement des consommateurs. Il dit, il n'y a plus le côté « je vais au cinéma », et une fois que j'y suis, je choisis le film que je vais voir. Il dit aujourd'hui, le consommateur, il est beaucoup plus précis sur les attentes du film qu'il veut aller voir. C'est-à-dire qu'il y a une sorte d'investissement en amont, en information, il sait ce qu'il va aller voir. Et là, je lui ai rappelé une définition assez intéressante qui distingue c'est un économiste, je ne sais plus comment il s'appelle, il distingue ce qu'il appelle les search goods et les experience goods. En fait, c'est très simple, il y a des biens, vous ne pouvez dire comment ils sont qu'après les avoir consommés, et il y en a d'autres, avant de les avoir achetés, vous savez ce que vous allez avoir. Or, le problème du film, c'est que c'est, par définition, vous ne pouvez en parler qu'après l'avoir vu. Donc, c'est un produit d'expérience. Il faut, voilà. Donc, il dit que, et c'est assez marrant, puisqu'il dit que le boulot de distributeur, quand on a réussi à se dire ça ensemble, on était super fiers, je ne sais pas si ça marche, mais vous allez me dire, mais l'idée du marketing, de la distribution, de la mise sur le marché d'un film, ce n'est pas des mots qui fâchent, hein, le marketing. Hein, il y a encore plus besoin de marketing, d'ailleurs, pour les films fragiles que pour les gros films, d'ailleurs. Donc, mais c'est un autre marketing. Bah, le problème de la mise sur le marché d'un film consiste à transformer un bien qui est un experience goods en un search goods. Créer les conditions pour que quelqu'un ait envie d'aller voir ce film-là. Voilà. Et c'était quelque chose qui est révélateur de cette économie de prototype, avec la dernière caractéristique de l'économie de prototype, c'est, et on le dit tout le temps, le cinéma, on dit qu'on est market maker, on crée du marché. D'ailleurs, que ça soit pour les films ou que ça soit pour les salles de cinéma, on dit qu'une nouvelle salle qui ouvre, elle crée son marché. On dit qu'un film est créateur. Voilà, c'est un marché, c'est le marché, c'est un marché d'offres. C'est pour ça. Et là, vous avez, si vous devez un jour discuter avec des gens qui considèrent qu'il faut créer des couloirs pour les mécanismes d'aide entre les films à potentiel de marché, les autres, ce que je viens de dire là. Et la plus belle démonstration qu'effectivement, c'est que c'est l'offre qui va créer le marché. Le marché, il n'est pas prédéterminé. S'il était prédéterminé, il faut que ces gens-là nous disent comment, hein, parce que ça intéresse beaucoup de gens de savoir. Donc, on est sur un marché de l'offre. On n'est pas sur une demande préexistante. Voilà. Et on l'a bien vu après le Covid. On a bien vu que tout le monde, c'était génial. Moi, ça m'a fait marrer d'entendre tous les producteurs français bien râleurs et bien militants dire « on n'a pas assez de films américains ». J'ai jamais autant rigolé de ma vie. C'est-à-dire qu'on voyait tous les producteurs les plus indépendants, même l'Acid, nos camarades de l'Acid, pleuraient en disant « le marché est fait parce qu'on n'a pas assez de films américains ». Pourquoi ? Parce que c'est un marché de l'offre. Et les films entraînent les autres films. Non, on va en parler après, mais voilà. Très vite, j'accélère parce que je suis très en retard. Deuxième caractéristique, après l'économie de prototype, alors celle-là, elle est très intéressante, bien évidemment, c'est la structure des coûts. C'est-à-dire que par rapport à l'économie dominante, l'économie du cinéma, elle a des caractéristiques très particulières, alors qui aujourd'hui sont très connues parce que ça ressemble un peu à ce qu'on appelle l'économie de l'information. C'est une économie de coûts fixes. Voilà. Et la transition numérique a fait que c'est encore plus une économie de coût fixe. Vous fabriquez votre film, tu as ton coût de fabrication du film, et après, lorsqu'il faut, entre guillemets, en faire des copies, salle de cinéma, télé, je ne sais pas quoi, le coût marginal, comme on dit en économie, est très faible. Donc, c'est une économie de coût fixe. Mais, alors après, on pourrait aller plus loin, mais je n'ai pas le temps, on pourrait parler de... C'est une économie très intensive en main-d'œuvre, hein, et d'ailleurs, on a toujours été très étonnés que les évolutions technologiques jusqu'à présent, hein, en matière de cinéma n'ont pas permis de réduire les coûts. Au contraire, elles élargissaient les potentiels de création et donc, paradoxalement, ça coûtait plus cher. Attention avec ce qui va se passer avec l'intelligence artificielle, en particulier dans le secteur de l'animation. Gros danger dans le secteur de l'animation. Je ne parle pas des autres secteurs, traduction, tout ça, mais là, il va se passer des choses. Donc, économie de coûts fixes, mais surtout, c'est une économie de coûts fixes avec, gardez cette expression, une valeur résiduelle de l'investissement qui peut être nulle. Je vous explique, c'est tout bête. J'ai 10 millions d'euros. Les premiers 10 millions d'euros, j'ai 20 millions d'euros. Il y a 10 millions d'euros que je mets dans un film. Il y a 10 millions d'euros que je mets dans la construction d'un garage. Je construis un immeuble avec des garages ou des bureaux, je pense, on s'en fout. Je me plante sur mon film. C'est-à-dire que mon film, auquel je croyais beaucoup, j'ai beaucoup travaillé, bah, ça arrive, il se plante. En pognon, qu'est-ce qu'il me reste ? Nada. La valeur résiduelle de mes 10 millions d'euros d'investissement est de rien du tout. Par contre, mon immeuble, j'ai lancé une activité de location de bureaux. Bon, je me suis rendu compte que ça ne marchait pas aussi bien que ça devait marcher. Bah, il me reste l'immeuble. je peux changer d'activité, je peux faire du logement, je peux faire des parkings. Vous voyez ce que je veux dire ? J'ai une valeur résiduelle. Donc, quand vous mettez... Voilà, je m'arrête là.
Alors là, je ne sais pas quoi dire, parce que c'est, pas là. C'est sympa. Bon, alors, oui, ça, c'est sûr que c'est ça. Tous les producteurs qui sont dans cette salle savent très bien que, effectivement, vous pouvez avoir 10 films dans votre catalogue, mais si les films n'ont effectivement connu aucun succès, ils auront du mal à exister sur les autres supports, pas seulement en salle, mais ailleurs. Enfin, de temps en temps, il y a des exceptions, hein, mais ça ne fait pas partie des films qu'on fait, nous, d'auteurs. Où en général, il y a effectivement tout d'un coup des films qui peuvent se mettre à marcher très bien à la télévision, mais là, c'est pas de ces films-là dont on parle. Donc c'est effectivement, comme c'est très incertain, mais qu'en même temps, je pense que c'est quand même malgré tout important que les producteurs conservent un catalogue, parce que c'est le fruit de leur travail, c'est le côté un peu paysan, c'est-à-dire vous gardez vos trucs, et que vous pouvez aussi tout d'un coup faire un film qui marche, et ça, c'est... Et là, pour le coup, ça a une vraie valeur de catalogue. Je dis ça parce que ça a l'air peut-être assez normal et on n'arrive pas toujours à garder beaucoup de parts de son film. Mais dans le système anglo-saxon, par exemple, vous êtes un producteur anglais, faire un film à gros succès, vous ne gardez rien, en fait. Les financiers gardent absolument toutes les parts du film. Donc moi, ça, je pense que c'est une grande chance en France. Voilà. Donc pour te dire, oui, on sait bien que c'est un prototype, c'est que vous vous lancez. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut faire en sorte que d'aider quand même les structures de production. Parce que récemment, je suis allée à un hommage à Margaret, qui était consacré à Margaret Ménégoz, qui était extrêmement touchant. Il y a eu un film d'une heure qui était super. Et ça m'a rappelé qu'il y a 20 ans, j'étais déjà à une cérémonie avec Margaret, qui là était là, et qui disait l'important dans ce métier, c'est de durer, parce que vous ne savez pas quand le succès va vous arriver ou pas. Et bien Margaret, elle, finalement, quand on regarde, elle a un peu connu ça, parce qu'elle avait quand même eu un creux de la vague quand Romère est parti, etc. Et puis elle a rencontré Anne Queux, avec qui elle ne voulait pas travailler, parce qu'elle lui a dit, vos films, ils sont trop violents pour moi. Et il a un peu changé ses films d'ailleurs quand il a travaillé avec elle. Donc voilà, donc il faut durer. Donc pour durer, il faut quand même avoir des structures qui arrivent à vivre et donc de les soutenir, c'est important. Ça passe par ces prototypes et la richesse. Je parle là du cinéma français. Ça passe par la pérennité des maisons de production.
Ok. Tu as, pour montrer qu'on avait préparé, tu as parlé d'incertitude. En fait, y a deux, d'un point de vue des probabilités, il y a deux situations. Il y a les situations d'incertitude et les situations de risque. La différence est très simple. Quand vous êtes dans une situation d'incertitude, vous ne connaissez pas la distribution possible des événements et donc y affecter une probabilité. Quand vous êtes dans une situation de risque, vous pouvez affecter une probabilité, dire je suis à 70% de risque, etc. Vous voyez le... Et en fait, c'est une fois que vous avez lu cette magnifique définition de différence entre incertitude et risque qui vient d'un mec qui s'appelle Knight, un économiste américain, vous avez la définition du producteur. C'est passer d'une situation d'incertitude à une situation de risque. Et quel est, à partir de là, le rôle, et on va y arriver tout de suite, le rôle des différents financeurs, dont les régions, dont les départements, c'est de contribuer à la réduction du risque. Et si il contribue à la réduction du risque, tout en permettant, comme tu viens de le dire, oui, qu'on a travaillé, hein, malgré les apparences, si en même temps, cette aide d'une région, d'un département, ou de l'État, ou du CNC, ou de ce que vous voulez, permet en même temps aux producteurs de garder une partie du film, puisqu'on va en reparler dans quelques instants, le sujet, il est là. Comment on se fait vite dépouiller du potentiel de succès d'un film. C'est ça le vrai sujet. Et c'est là que la somme et la complémentarité des mécanismes de soutien, pas seulement le CNC, mais qu'il y ait la région, le département, c'est une clé hyper importante. Donc, quand on est dans cette situation de risque, ou en tout cas qu'on veut passer d'une situation d'incertitude à une situation de risque, en fait, tout le monde le sait, il y a en gros trois, le moyen le plus fondamental pour réduire son risque, c'est la spécialité du capitalisme français du cinéma, puisque nous avons des capitalistes sans capitaux. C'est bien ça. Voilà. Et quand on est des capitalistes sans capitaux, comment on fait pour réduire son risque dans le cinéma? Eh bien, on préfinance. En gros, c'est comme si on faisait de la promotion immobilière. Je prévends les appartements avant d'avoir construit l'immeuble. C'est aussi bête que ça. Sauf que, attention, les droits d'un film, puisque vous connaissez tous l'économie du cinéma, en fait, un film, d'un point de vue financier, c'est des droits d'exploitation, salle, télé, international, tout ça, ça se mélange. Le seul problème, c'est que vous les vendez qu'une fois. C'est-à-dire que les droits salles, une fois que vous les avez vendus à vos amis du GC, de Pathé ou de je ne sais pas qui, ils sont vendus. Une fois que vous avez vendu vos droits télé payantes à Canal, vous les avez vendus. Et donc, tout le cœur du problème, il est là. Combien de fois un producteur... Moi, j'ai fait des missions pour le CNC, donc j'ai auditionné des producteurs et tout. Je ne donnerai pas de nom. J'avais eu une fois un grand producteur, très brillant, qui me disait, mais t'as vu, ces enfoirés, ils m'ont tout pris. Alors, ça veut dire quoi, ils m'ont tout pris? Ça veut dire, j'ai été voir Pathé, qui m'a dit, je vous mets tant d'argent pour votre film, mais je prends vos droits, export, télé, etc. Et moi, je lui disais, mais va pas les voir. Va pas les voir. Mets ton argent à toi. Il dit, ah non, mais ça, non, je veux pas. Je dis, bah alors... Le sujet, il est là en permanence. Et en fait, par rapport à ce dilemme fondamental qui est celui de l'arbitrage, amortissement, préfinancement, quand il y a amortissement, on est en risque. Quand on est en préfinancement, on réduit le risque. Le problème, c'est de trouver l'équilibre dans les financements qui permet aux producteurs indépendants de garder des droits. Parce que s'il garde pas de droits, eh bien, il n'arrive pas justement à devenir capitaliste, parce que c'est quoi le capital qui va se constituer? Tu l'as évoqué, c'est le catalogue.
Voilà. Bah après, oui,
à toi.
Non. Alors d'abord, il y a quand même un truc important, c'est effectivement ce mélange de public-privé. Je pense que c'est-à-dire que ça marche, en fait, ce système, il marche parce qu'à la fois, on va chercher effectivement des financements publics, mais quand même, on va, et ça c'est très important, on va, en tout cas, c'est pas forcément toujours facile, mais on a besoin de trouver un distributeur, de toute façon, sinon, vous ne trouvez pas vraiment de financement. Et on a besoin de chercher des MG, des exploitations VOD, de l'étranger, etc. Et c'est très important parce que c'est un équilibre entre public et privé. Et dans les pays où il n'y avait que des financements publics, le cinéma s'est arrêté. C'était le cas d'Italie pendant assez longtemps. Oui, en fait, moi, je pensais qu'il n'y avait pas de financement. Si, il y avait un financement italien, mais il n'y avait qu'un financement étatique pendant longtemps. Je vais peut-être dire des bêtises, hein, mais je pense que quand même ça existait comme ça. Résultat des courses, les réalisateurs disaient « mais moi, je n'ai pas besoin de producteurs, parce que de toute façon, il n'y a qu'un seul financement possible ». Et comme ça, en fait, le cinéma italien ne sortait pas d'Italie. Et il y avait, voilà. Donc, ce que je veux dire, c'est que c'est la multiplicité et le mélange public-privé qui est très important. Et après, on va revenir au pré-achat. C'est à la fois un système formidable, mais qui est un piège pour les gens des films de comme on fait, parce que... En tout cas, ce qui est sûr, c'est ce que vous avez avant, vous savez que vous l'avez. Et il ne faut pas penser que... parfois, on prend des risques, et c'est normal, ça fait partie du métier, mais c'est sûr que ça ne s'arrive jamais que ce que vous n'avez pas avant, vous le récupériez après. Quasiment jamais, même si vous... Ou alors, il faut faire un énorme, énorme succès. Parce que toute l'économie, du coup, aidée, enfin, soutenue du cinéma français, elle est fondée sur le pré-achat. Beaucoup, quand même.
Ok. Je termine mon troisième petit bloc. Après, vous serez débarrassé de moi. Une fois qu'on a dressé ce paysage, hein, tout simple, hein, vous avez vu, on a 5-6 mots simples. Hein, économie de prototype, différenciation, risque, rendement. C'est assez simple. Avec ces mots-là, si on les pose bien, on trouve tout. En fait, quand on voit les caractéristiques de cette économie du cinéma, en fait, c'est quels sont les moyens fondamentaux de réduire le risque? En fait, il y en a trois. Le premier, et là aussi j'en discutais avec Snanouch, alors ça c'était vraiment l'américain type, le premier c'est de gommer une des caractéristiques que j'ai données tout à l'heure, qui était celle, un film c'est un prototype. Et lui il dit, aujourd'hui il faut qu'on regarde bien ce qu'on peut faire comme remake. Le remake c'est... Et puis... La recherche permanente par nos amis américains, c'est beaucoup moins le cas en France, de ce qu'on appelle les licences. Ouais, les franchises. C'est-à-dire, quelle est la logique de la franchise ? Bah, c'est de sortir de la logique du bien complètement différencié. C'est-à-dire que c'est quand même un nouveau film, mais on y retrouve les ingrédients du premier. Donc, ça devient ce que j'ai appelé, vous voyez que c'était très, très préparé, ça devient un search goods, puisque c'est un bien qu'on connaît déjà, dont on connaît les caractéristiques. Donc, ça réduit. Donc, tout ce qui est aujourd'hui série, franchise, remake, le nombre de remakes qu'il y a dans le monde, c'est... je discutais avec des gens de Gaumont, ils savaient même, sur Lupin, ils ne savaient même pas combien il y avait eu de remakes, tellement il y en avait dans tous les coins. Et le troisième élément, mais ça vous le connaissez, il est, je dirais, consubstantiel à l'économie du cinéma, c'est tous les systèmes de star system. La logique du star system, c'est d'attacher les spectateurs, non pas à un contenu, mais à un comédien, et de faire qu'on va voir le film du comédien. Voilà, donc ça c'est le premier moyen. Le deuxième moyen de réduire les risques, c'est le modèle américain. C'est un modèle super simple, le modèle américain. Concentration verticale, concentration horizontale, on est gros, pouvoir de domination, on peut imposer nos films, on impose nos films au marché. Vous connaissez tous, à chaque fois, tous les étés, vous voyez sur les écrans des films de merde américains, des films de collégiens, de je ne sais pas quoi. Pourquoi les salles les sortent ? À chaque fois, j'en dis, pourquoi vous mettez ça ? Bah, simplement, quand Warner vend Harry Potter... et que Pathé dit dans mes salles je veux le prochain Harry Potter, et bah, Warner dit oh, c'est avec grand plaisir, mais il va falloir que tu te prennes les 10 merdes là, qu'on sort cet été et que tu les exposes bien. Et pourquoi il faut bien les exposer? Bah, simplement parce que comme ces films après sont vendus par Warner à la télé publique, à la télé en clair, aux télé payantes, aux plateformes, bah, la sortie en salle les valorise. Donc le système américain, c'est un système de packaging, c'est un système de rapport de force, c'est un système, et c'est un système de non-diversité. C'est-à-dire, on n'est pas beaucoup, on fait des films très chers, et on les impose au marché. Et bien évidemment, en les imposant au marché, on réduit le risque. Attends, je termine le troisième moyen. Le troisième moyen, vous le connaissez, c'est le système, on va dire, français, qui bien évidemment se décline de manière plus ou moins importante dans les autres pays, hein, avec ces trois éléments qu'il y a, vous couvrez tout. Le système français, c'est simplement un système d'organisation du préfinancement. C'est aussi simple, on peut le résumer en un mot. Alors après, on peut aller plus loin, mais organiser le préfinancement, c'est le cœur de ce système qui réduit le risque. Et je le répète, tu l'as parfaitement dit, attention aux films tellement bien préfinancés qu'il ne reste rien au producteur. C'est-à-dire que dans ce cas-là, le producteur ne se constitue pas cet actif qui est son catalogue. Donc le risque de l'arbitrage, risque, rendement, préfinancement, amortissement, qui est au cœur du système français, puisqu'on a l'épargne du CNC, qu'elle soit automatique, sélective, on a les obligations d'investissement, puisque c'est ça le cœur du système. Si un jour on vous demande de choisir, moi je choisis de perdre le CNC et de garder les obligations de préfinancement des chaînes. C'est évident qu'en termes de millions d'euros, je ne sais pas là, vous avez nos amis de Disney, ils vont signer un accord avec la profession, voilà.
Avec de la diversité. Hein.
Alors, Disney va, il commence normalement, ça, c'est en train d'être signé, hein, donc un magnifique accord dans lequel nos amis de Disney vont mettre de l'argent sur la table, de la diversité, ils vont même donner comme d'habitude un petit billet à ces enfoirés d'exploitants qui ont réussi à faire du racket. Bon, mais ça c'est la tradition de l'exploitant français, mais bon. Mais en tout cas, on voit bien le cœur des les trois systèmes qui permettent effectivement de réduire ce risque. Voilà. À toi.
Oui, bah alors non, enfin, quand je parlais... Oui, bah, réduire le risque. Oui, bah, en fait, c'est aussi parce que les Américains ont été tellement offensifs après-guerre qu'on a aussi créé notre système. C'est-à-dire, ça, donc voilà, c'est... Donc, quand je t'entends, je me dis, bah, oui, c'est de la résistance quand même à un système... Et voilà, on propose autre chose, quoi. Et ça, enfin voilà, ça me bluffe toujours de me dire qu'on a créé au fur et à mesure des années un tel public. Parce que je reviens à ces 30 ou 40% de parts de marché pour les films français. C'est quelque chose d'extraordinaire. Et ça vient de tout un réseau, de toute une organisation. Évidemment, ça passe aussi par les 5700 écrans et les... Oups, pardon. Et voilà, que dire ? Non, quand je parlais de préachat, moi je parlais du fait que ce n'est pas trop de préachat, c'est que souvent on a peu de préachat, mais effectivement, en tout cas, nous, notre expérience, c'est d'essayer de faire les films avec l'argent qu'on a avant et éventuellement de s'asseoir, on en parlait justement sur les salaires producteurs et les frais généraux, mais de faire attention que le risque soit là, pardon, c'est un peu le côté, soit pas plus important, parce que sinon, vous avez quand même très peu de chances de récupérer ce que vous n'avez pas eu avant. Et votre risque, il est déjà suffisamment important de développer, de prendre tout ce temps, d'accompagner des auteurs sur des projets, etc. Donc après, là on parlait des exploitants là aussi, parce que des capitalistes américains, on en a nous aussi, parce que pour les salles, l'accès aux salles, etc., c'est très compliqué, parce qu'on a aussi des gros, des structures intégrées en France qui aussi, les gens peuvent, que ce soit Pathé, ou j'essaie, ils prennent beaucoup de salles sur certains films. Moi, je suis très amie avec certains exploitants, je sais aussi qu'ils ont des coups de fil pour dire, tu prends notre film, mais c'est même pas 10 autres films. Tu prends ce film-là, mais tu le mets dans telle salle, tu le gardes pendant tant de temps, et du coup, ça les empêche de prendre, évidemment, des films qui sont moins défendus, qui ont moins de force pour se défendre. Mais, en tout cas, je pense, qu'est-ce que je peux dire juste, c'est que je pense que la production indépendante et le système d'indépendance, c'est quelque chose de fondamental. Je pense que c'est ça qui crée nos 30 ou 40%. C'est-à-dire que les gens ont envie d'aller voir des films. Et il y a des années, évidemment, plus ou moins fastes, mais cette année, c'est une année qui est formidable pour le cinéma d'auteur. Et c'est très bien, parce que je pense que... j'en sais rien, je ne suis pas dans les petits papiers de Disney, mais je suis sûre qu'ils ne sont pas idiots. Hein, ils ont dû regarder quand même. Hein, et ils voient bien qu'en fait... Donc c'est pour ça qu'effectivement on va voir ce que ça donne, hein, parce que je sais bien que c'est des gros méchants loups qui ils arrivent tout gentils, là, comme dans Tex Avery, quoi. Et puis après, à un moment, ils vont ouvrir la mâchoire et ça, il va peut-être se passer autre chose. Mais en tout cas, pour l'instant, ils sont censés respecter la diversité. On va voir ce que ça donne sur les choix des films. Hein. Bon, je ne sais pas si je dis, mais voilà. Nous, en tout cas, moi, je pense qu'on n'est pas particulièrement formidable, mais simplement, en tout cas, je suis très consciente du fait qu'on a réussi à faire ce qu'on fait depuis 30 ans. Grâce à ce système de mélange de public-privé. Et aussi à des gens qui ont défendu, je me tourne vers Jean Raymond parce que c'était la première personne avec qui on a travaillé en région, mais des gens qui réfléchissent à d'autres systèmes de financement pour justement être dans un système moins brutal que le système américain, qui ont même, tout simplement, mais qui crée de la richesse et qui crée du désir d'aller voir des films différents. Parce que s'il n'y avait que des franchises, je pense que les gens seraient désespérés. On a bien vu d'ailleurs, avec le Covid, les gens disaient on ne va plus regarder que des séries, etc. Mais finalement, les gens ils sont contents de retourner au cinéma et de voir des films qui sont effectivement différents. Ils ne savent pas forcément ce qu'ils vont voir. Mais, il faut entretenir ce public. C'est des grandes chaînes qui partent de l'écriture, qui va jusqu'à l'éducation à l'image, en passant par les exploitants, etc. Donc on est le fruit de tout ça. Et c'est un beau système qu'il faut essayer de défendre, quoi. Mais pas le défendre pour le défendre, mais le défendre parce que ça a un sens, quoi.
Et on peut boucler avec ce qu'on avait dit tout à l'heure au tout début. C'est d'autant plus intéressant que d'un point de vue économique, c'est très bon. Il y a beaucoup de travaux économiques sur ce qu'on appelle l'économie de la diversité qui démontrent qu'économiquement, la diversité, c'est efficace et c'est producteur de richesse. On l'a bien vu là ces dernières années quand on a eu des problèmes d'offres de films. Soit il manquait du cinéma français, soit il manquait du cinéma américain parce qu'il y avait la grève. Ouais, il y a eu tout ça. On voyait bien que c'était un bordel dans les salles. Il n'y avait pas assez d'offres et il n'y avait pas assez d'offres diversifiées. Là, on vient de voir au cours de ces deux derniers mois, c'était génial. Tous les exploitants étaient ravis. Ils disaient il y a de l'offre et il y a de l'offre de films en nombre parce que l'exploitant il aime. Alimenter la bête, mais il lui faut de l'offre diversifiée. Parce que s'il n'a pas de l'offre diversifiée, il va se priver de certains publics. Donc l'économie de la diversité, c'est l'économie du cinéma. Et je le redis, puisque c'est quand même le fil directeur de vos problématiques, je reste persuadé que le rôle en préfinancement des collectivités locales est un élément structurant de cette liberté, de cette diversité, à la fois d'un point de vue artistique, et d'un point de vue économique, puisque ça permet de garder du négatif pour le producteur.
Oui, alors moi, je voudrais juste dire un petit truc, si on a encore deux minutes. C'est pour avoir fait partie de pas mal de commissions, et notamment dans les commissions régionales. Je peux la citer, d'ailleurs. Je suis dans la commission d'Auvergne-Rhône-Alpes Cinéma depuis longtemps maintenant. Et en fait, après, chaque modèle de région est différent, et c'est ça qui est intéressant, hein, je maintiens ça. Mais en tout cas, l'expérience que j'en ai, c'est qu'il y a un seul comité, et il y a des films très différents. Et en fait, on arrive à aider des films qui sont parfois, effectivement, dont on se dit qu'ils ont un potentiel commercial, et des films d'auteur aussi, avec du potentiel commercial d'ailleurs, je ne vais pas me contredire tout à fait, mais des films plus pointus, des films, voilà, et on arrive à aider tous ces films. Et ça a donné le fait qu'on a, bon, on a aidé un petit truc en plus, mais on a aussi soutenu le film de Justine Trier, et d'autres films et des films d'animation aussi un peu plus pointus. Donc ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas de différencier, me paraît pas la bonne idée. Bon, ce qu'il faut peut-être, c'est des comités qui durent un peu pour avoir une mémoire, en fait. Je sais pas comment c'est organisé, mais ça, en tout cas, moi, c'est ce que je constate dans ce comité-là. C'est que c'est renouvelé par tiers, etc. Ce qui fait qu'il y a toujours quelqu'un pour dire, non mais là, voilà le type de film qu'on a aidé, là, tiens. Mais, et aussi une diversité au sein du comité pour qu'il y ait des gens qui naturellement vont aider plus des premiers films, deuxième films, parce qu'ils les connaissent plus, parce qu'ils sont un peu plus concernés, et des gens qui ont une sensibilité différente. Mais en tout cas, dans un même comité, ça marche très bien, des films très différents. Et ça, je pense, c'est encore une fois, comme on ne sait jamais si un film va marcher ou pas, il y a quand même des gros films qui ont tous les financements qu'ils veulent et qui ne marchent pas du tout en salle. C'est, voilà. Même des grosses comédies, il y en a plein, quoi, et qui ne marchent pas. Et quelques-unes qui marchent. Bon, bah, c'est pareil avec les films d'auteur. Quoi.
Merci beaucoup. Et oui, ce serait bien qu'il y ait un échange avec la salle. On a 15-20 minutes devant nous. Jean-Raymond.
D'abord, merci à tous les deux. Une chose qui me frappe, c'est que dans la première définition que tu donnes, Michel, sur la filière, tu parles des producteurs, tu parles des distributeurs, tu parles des exploitants, tu ne parles pas des cinéastes. Tu ne parles pas des cinéastes.
Au micro, s'il vous plaît.
J'ai été délégué général et de la SRF et de l'ARP, si vous voulez. C'est inhérent chez moi que l'auteur, on n'en parle même pas, parce qu'il est au cœur de tout.
D'accord. Non, mais c'est bien de le rappeler. Oui. Voilà. Parce qu'on est confronté à une situation d'invisibilisation, précisément dans les filières, notamment en région. Hein. Vincent Leclerc a rendu un rapport à la SACD qui pointe un déficit stratégique des investissements des collectivités territoriales à l'endroit des auteurs. Et je pense que c'est très important, et ça ne va pas du tout en opposition avec les productrices, les producteurs et les distributeurs ou même les exploitants. C'est juste rappeler cette dimension où nous aussi, on participe de cette économie de la filière avec, des diversités esthétiques, économiques. On n'écrit pas, on ne développe pas de la même façon. On est au cœur de cette industrie du prototype. C'était juste...
On en a parlé quand même, parce qu'on a parlé de films d'auteur en permanence.
Non, mais c'est sur la question de la filière, vraiment. L'autre chose, Milena, c'est tu parles d'Auvergne-Rhône-Alpes. Les modalités d'intervention de la région Auvergne-Rhône-Alpes, c'est via Auvergne-Rhône-Alpes Cinéma, qui est une entreprise de coproduction.
Ah, mais ça, non,
moi je parle. Et ça n'a pas fait jurisprudence.
Non, mais c'est très bien, d'ailleurs, que ça n'ait pas fait jurisprudence. Ce n'est pas du tout la question. Moi, je parle juste en termes de choix. Et le choix, je peux te promettre que ça n'a aucun rapport avec le fait que c'est une société. Effectivement, moi, comme productrice, tu pourrais dire que je suis un peu schizophrène. Parce que je sais très bien, comme productrice, que si je vais dealer avec Grégory, qu'il va me prendre du fonds de soutien et que je vais râler. S'il en prend trop, et que c'est une discussion qu'on va avoir. Mais je te promets que dans les choix du comité, ça n'intervient pas. Il ne se dit pas, ça va me faire gagner de l'argent. Ce n'est pas comme ça que le comité rêve. C'est uniquement artistique avec, justement, on a un élément politique, on n'en a qu'un, nous. C'est la vice-présidente, il se trouve, que de la culture. Et tu vois, on a fait un peu la grimace quand elle a changé en se disant, zut, c'est la femme, bon, pardon, mais ce n'est pas grave. Voilà, elle travaille pour Wauquiez, qu'est-ce qui va se passer? Et finalement, en fait, on en parlait. En fait, au bout d'un moment, c'est une histoire d'équilibre entre des politiques. Mais c'est intéressant qu'elle soit là, parce qu'on discute avec elle, qu'on comprend ce qu'elle veut. Mais globalement, on est évidemment plus nombreux, donc on peut arriver à la convaincre un peu plus facilement. Et surtout, au bout d'un moment, comme elle comprend un peu
elle
ce
apprend.
Qu'on raconte. Oui, elle apprend, en fait, elle apprend. Mais en tout cas, c'est bien de redire ce qu'est Ronald, parce que tu as raison, c'est une société privée, et qu'effectivement...
Ce qui a l'air qui n'est pas sans impact au moment des plans de financement, ils permettent d'avoir des financements privés dans les plans de financement et de ne pas être sur des taux de financement d'intensité d'aide publique trop importants.
Oui, là, ça un peu, c'est oui, enfin bon, c'est un peu.
On le sait.
J'arrive.
Bonjour, moi j'ai une question. Je suis italienne, donc j'ai un accent.
C'est bien.
Non, si quelqu'un se posait la question pendant que je parlais, voilà, je le dis tout de suite. Je voulais savoir, en Italie, depuis quelques temps, j'ai de collègues scénaristes et producteurs qui me disent qu'en fait, la plupart des productions, et aussi Rai Cinema par exemple, pour faire des préachats, préfèrent des œuvres qui sont des adaptations, pas de sujets originaux. Pas forcément des remakes ou des sequels, des films déjà faits, mais il veut une assurance que derrière, il y a une autre partie de l'industrie culturelle qui n'est pas celle du cinéma, qui cautionne l'histoire. Et je voulais savoir si c'était... parce que je sais qu'il y a un financement maintenant au CNC pour les adaptations, donc peut-être c'est ça. Mais en Italie, par exemple, le ministère, il y a une filière exprès. C'est-à-dire, il y a des financements qui sont déplacés seulement pour les films d'adaptation. Donc, je voulais savoir si c'était quelque chose, comment dire, en fixation italienne, ou si un peu l'air du marché.
Alors, je vais répondre à mon échelle. Je ne savais pas qu'au CNC, qu'il y avait une aide spécifique pour les adaptations, ça, je ne sais rien. Alors, je pense que non, c'est pas du tout... Je ne pense pas que l'adaptation ait ce rôle-là dans le choix, par exemple, des chaînes. Mais ce qu'on constate, c'est évidemment un nombre croissant, enfin d'ailleurs, de prise de droit sur les livres. Enfin, je pense que c'est un marché qui s'est considérablement développé. Ils en parlent de ça. Ouais. Donc oui. Et puis parce qu'il y a tellement de sociétés dont je parle, parce que là on n'a même pas parlé des sociétés intégrées, qui sont un autre, pour moi, un autre souci. Voilà. On a parlé des vieilles, genre je sais comment, etc. Mais il y a toutes les sociétés, genre Media One, etc., qui absorbent les producteurs indépendants. Pour moi, ça, c'est un souci, quoi, vraiment. Et eux, ils ont tellement de puissance de feu qu'ils prennent beaucoup, beaucoup de droits. D'ailleurs, c'est un souci. Enfin, moi, j'ai constaté que les négociations avec les maisons d'édition sont beaucoup plus rudes qu'il y a même 10 ans. Donc, je me bats comme un chien. Je me dis, mais c'est pas possible ce que vous demandez. Enfin, bref, en tout cas, voilà. Donc, non, mais il n'y a pas ce côté garanti. Je crois pas qu'on puisse dire ça. Même s'il y a quand même beaucoup de films qui sont des adaptations. Hein.
Mais ce que vous dites est simplement révélateur de phénomènes d'industrialisation des process. C'est-à-dire que l'idée, c'est de réduire le risque en enlevant, comme je l'ai dit tout à l'heure, la différenciation existante consubstantielle du film. Et c'est là, ça donne, si vous le voulez, aussi des arguments pour bien définir ce qu'est le rôle d'une collectivité locale. Oui, c'est-à-dire que plutôt que de simplement parler de complément, on voit bien le rôle, mais un rôle à forte valeur ajoutée, que peut avoir une collectivité locale dans ses choix. Donc, et je trouve que c'est plus intéressant, je reviens à mes arguments de tout à l'heure, de donner aussi des arguments économiques sur effectivement le rôle des collectivités locales. On va vers des problèmes très compliqués pour les collectivités locales dans les années à venir, hein, puisque je pense que les relations avec l'État vont rester complexes. Hein. Je ne sais pas où est-ce qu'on en est là. Mais bon, voilà. Donc, simplement, ce que vous évoquez sur ce mécanisme n'existe pas en France, mais c'est révélateur de l'industrialisation. Ouais.
Bonjour. Moi, j'aimerais vous poser la question de la diversité, parce que j'ai l'impression qu'on est parfois un peu naïf avec ce mot. Je veux dire, pour une Sofika, la diversité, c'est plus un film de plus de 4 millions d'euros. Enfin, il y a plein de, y a plein de définitions différentes. Quand vous dites « je préfère qu'on renonce au CNC pour garder les obligations de, d'investissement de la part des chaînes », je veux dire, en les obligeant à avoir des clauses de diversité, tant qu'on ne sait pas de quelle diversité on parle, c'est une des diversités dont vous parliez, par exemple, c'est les gens dans les commissions qui doivent être différents entre eux. On sait bien qu'aujourd'hui, Canal+, on a perdu quelque chose, peut-être en termes de curiosité, de désir de film. Enfin, en tout cas, visiblement, on s'avance vers quelque chose de moins divers. Et aussi, même au niveau des femmes productrices, on sait bien qu'une femme productrice qui commence ne pourra pas faire des films de très haut budget, puisque on sait, c'est statistique, quoi. Les femmes productrices font plutôt du documentaire, elles sont de moins en moins nombreuses. Enfin, y a des
elles ne sont pas de moins en moins nombreuses. Hein. Alors là, je vais vous dire, quand j'ai commencé, il y en avait...
De moins en moins nombreuses, plus on monte dans les budgets de films. C'est ça que je veux dire. C'est ça que je veux dire. Donc voilà. Donc diversité, c'est pas clair pour moi.
C'est pas clair parce que c'est large, justement. C'est le principe même. Non, mais on est d'accord. Hein, je suis d'accord avec vous. Je pense que Canal+, je le constate aussi. D'ailleurs, on s'inquiète là des nouveaux de problèmes de savoir quels vont être les accords. Mais on voit bien qu'ils poussent des films vers Ciné+, et ils n'investissent pas dans Canal+. Après, sur les femmes, alors là, c'est aussi parce que moi, je suis franchement vieille maintenant, mais alors je vais vous dire quelque chose. Quand j'ai commencé ce métier, il n'y en avait pas de femmes. Hein. Il n'y avait pas de femmes dans les équipes techniques. Il y avait très peu de femmes productrices. D'ailleurs, je vous conseille un truc vachement bien. Moi, j'ai adoré ça. C'est sur MyCanal, pardon. Il y a un truc qui s'appelle les Nababs de notre temps, je crois. C'est une série de producteurs sur l'histoire des producteurs. Des producteurs, et il n'y a que deux productrices. Donc ça commence dans avant-guerre, etc. C'est passionnant, vraiment. Ça s'appelle, je crois, les Nababs de notre temps. C'est Florence Strauss qui a fait ça. J'ai découvert il n'y a pas longtemps. Les deux femmes, c'est Mac Bodard et Albina Dubois-Aubray. Voilà, c'était ça. Alors, il y en a peut-être une. Il y en avait peut-être un peu. Donc non, maintenant, il y a des femmes productrices. Et c'est bien. Et quand vous parlez de budget, je pense que... L'histoire des budgets, c'est aussi des histoires... Je ne crois pas que ce soit déterminé, parce qu'effectivement, le pouvoir est encore quand même très masculin, mais c'est en train de changer. Il y a des plafonds de verre, il y a des choses, mais non, il ne faut pas vous dire ça dans la tête, hein, vous dire, parce que je suis une fille, je ne vais pas faire un gros budget. Les gros budgets, d'abord, c'est une fin en soi, c'est un projet qui doit correspondre à un budget, et voilà, et on essaie de le trouver. Mais je ne crois pas que je sois genrée, je ne crois pas.
Oui. Donc ces plateformes s'engagent à faire des investissements et on ne sait pas à quoi vont ressembler les investissements qu'elles vont faire. Est-ce qu'on pourrait se poser la question de savoir quel type de diversité on leur demande, que ce soit dans les comités, que ce soit dans les types de films, que ce soit dans les budgets des films? Encore une fois, pour une Sofika, un film pas cher, c'est pour nous quand même un film tout cher. Vous voyez ce que je veux dire?
Ah oui, ça je vois très bien, parce que moi je continue à faire des films pas très chers. Je peux vous dire, ils sont largement 4 millions, je vois bien, très bien. Oui.
Juste, il faut faire attention. Les clauses de diversité, nous, Français, ça nous semble une évidence. Quand vous allez dans d'autres pays, que vous expliquez qu'on a réussi à négocier avec les chaînes de télévision des niveaux de préachat importants avec des clauses de diversité, etc. La clause de diversité, par définition, il faut qu'elle soit lisible et simple. Et malheureusement, trouver autre chose qui ne soit pas philosophique que des tranches de budget, c'est impossible. Donc attention à ne pas vouloir créer une économie totalement administrée. Quoi. Je veux dire, il y a des limites. On est déjà bien, bien loin en matière de régulation. Il y a des dangers, et les dangers, vous les avez évoqués, tu les évoques sur Canal. Aujourd'hui, il y a quand même des gros soucis politiques en France sur une immixtion d'un certain nombre de personnalités avec des opinions politiques particulières dans l'univers de la presse, des médias, de l'audiovisuel. C'est ça les sujets. Voilà. Mais aller vers des clauses de diversité qui s'exprimeraient de manière encore plus précise de niveau philosophique, là, je pense que vous imaginez... Ça, on n'y arrivera pas. Il faut que ça soit efficace quand même. Hein. Il faut que ça,
en fait, je pense que j'ai envie de dire, il faut vraiment vous battre pour faire les films que vous voulez essayer de faire. Il ne faut pas vous dire que c'est plus facile en avançant, hein, dans le temps. Je ne crois pas. Hein. Ce n'est pas grave, mais tant que vous arrivez à faire les choses. Mais Moi, ce qui me réjouit, c'est, je sais que c'est un peu naïf, hein, mais c'est le succès des films dont j'ai parlé, quoi. Parce que ça, je pense que les gens, quand je dis les gens, je parle des décideurs, ils le voient, quoi. Ils sont pas idiots, hein, quand il y a un certain nombre de films, là, on va voir ce que ça va donner. J'espère que ça va marcher, le film de Louise Courvoisier, etc. Mais ben Dieu, ça marche, quoi. En fait, on est un peu condamné, pas condamné, parce que j'aime pas ce mot, mais on parlait du marketing, par exemple. Moi, alors justement, je pense que les films que vous voulez faire, il faut se dire qu'il faut essayer, c'est difficile, hein, mais de se dire, et c'est avec les réalisateurs et les réalisatrices, en plus on est justement de faire connaître les films, il y a beaucoup plus d'instruments qu'avant, quoi. C'est vraiment de vendre les films, quoi. C'est la première qui en a parlé, où je me disais, c'est Régine Vial des films de Los Angeles. Régine, elle fait une projection, elle dit, bon, alors, comme maintenant tout le monde le dit, hein, bon, si vous aimez le film, parlez-en autour de vous. Mais elle a une façon, moi j'ai appris ça chez elle, de se dire, c'est pas parce que c'est un film pointu, un film d'auteur, etc., qu'il ne faut pas vendre des films. Donc oui, c'est un combat, en fait, je suis d'accord, hein, et ça ne va pas changer ça. Et effectivement, il y a des ennemis un peu partout, mais il y a aussi des choses fondamentales ici qu'il faut effectivement réussir à défendre. Enfin oui, je suis d'accord avec vous, ça restera toujours un truc difficile, mais je pense que les gens, le public, en tout cas pour l'instant, il est quand même curieux en France, et ils vont voir des films dont on se dit, tiens, pourquoi est-ce qu'ils vont voir ces films-là ? Moi, je me souviens d'une séparation, c'était un des premiers gros succès de, comment il s'appelle le réalisateur iranien, là, c'est ça ? On a fait 1 million d'entrées en France, quoi. Il n'y a pas d'autres pays comme ça. Moi, j'ai coproduit Incendie, c'est de Denis Villeneuve. On a fait 420 000 entrées. Bon, ça ne paraît pas gigantesque, mais n'empêche que c'était le plus gros succès après le Québec, quoi. Donc, je veux dire, voilà. Donc, il faut se dire qu'on a des arguments, qu'il faut les défendre, qu'il faut se battre pour effectivement continuer. Alors, cette diversité, ça, c'est enfin un grand mot, mais c'est mieux. C'est mieux de dire qu'il faut défendre ce mot, même si je suis d'accord avec vous que ça ne recouvre pas forcément une situation totalement idéale. Mais si on n'a pas, c'est juste la cata. Donc il faut défendre ce mot absolument, quoi. Voilà. Enfin, ce mot et ce cinéma, quoi. Pardon ? Ah ouais, mais vous avez bien raison, hein, vous avez bien raison.
Bonjour. Moi, je voulais revenir sur la question des couloirs création et économique qui était à l'origine de cette table ronde. Dans la mesure où j'ai l'impression que vous avez pris économique sous l'angle des retombées économiques que va avoir le film après, pendant son exploitation, et c'est pour ça qu'il y a marqué exigence commerciale, pour moi, l'idée du couloir économique concerne plutôt l'implantation de dépenses sur le territoire, les retombées en termes d'emploi. Et du coup, je voulais savoir comment vous envisagez ça éventuellement dans le cadre du comité Rhône-Alpes. Et du coup, monsieur, plutôt dans le cadre de l'exception culturelle, dans le cadre de la régulation du marché, est-ce que vous y voyez quelque chose d'intéressant ou pas ? Puisque pour moi, avant tout, couloir économique, c'est avant tout une question d'emploi local que de retomber dans l'exploitation des œuvres.
Oui, un mot rapide. Effectivement, on n'a pas du tout traité cet angle-là. Bah, c'est un sujet qui m'intéresse un peu, parce que comme je m'occupe de l'accueil des tournages à Paris et qu'on accueille juste 7000 jours de tournage par an à Paris, à chaque fois, les politiques me disent « mais combien ça rapporte ?» La question du politique habituel. Alors, soit ils pensent au pognon, soit ils pensent à l'image. L'image qui voyage dans le monde, etc., grâce à la charmante Émilie. Sans commentaire. Mais à chaque fois, moi, je leur réponds, à chaque fois, c'est de l'emploi. Ne pensez qu'à une chose, pensez à l'emploi. Alors après, on peut être un peu plus sophistiqué, pensez aux industries techniques, pensez... Mais première préoccupation, pensez à l'emploi. Une région, une ville qui tourne, c'est de l'intermittent qui bosse, qui fait ses heures. C'est ça, le premier rendu. Et effectivement, ils aiment pas, ils préfèrent. Si, eux, ce qu'ils aimeraient, c'est que je leur dise, c'est génial pour l'image de Paris. Mais je m'en fous, l'image de Paris, elle existe déjà. Vous voyez ce que je veux dire ? Et quand j'ai appris là ce matin en discutant dans le train qu'il y avait dans votre région à la fois du fonds régional,
du fonds départemental et des métropoles, bah, je trouve que cette complémentarité est très astucieuse dans le maillage. Et effectivement, c'est quoi la retombée ? C'est de l'emploi. Voilà, et ça, là aussi, c'est le genre de discours qui, à mon avis, il faut matraquer.
On répond à votre question ? Enfin, moi, après, à mon échelle, là aussi, de, quand même, de balayer un certain nombre d'années, bah, ce qu'on voit, c'est se constituer du savoir-faire dans une région, des équipes, des comédiens. Voilà, on vient de finir un film qui s'est tourné entièrement à Bordeaux. On avait une équipe vraiment mixte de Bordelais ou de gens qui viennent s'installer. Hein. Il y avait un chef d'éco qui était un Parisien, mais qui s'est installé à Royan. Mais toute son équipe était bordelaise. Et c'est réjouissant de voir ça. Parce que du coup, c'est un vrai... c'est vraiment Mais moi, je pense que ce financement régional... bon, je ne parle même pas ce que je connais un peu moins, mais je vois bien de toutes les sociétés qui sont installées dans les régions. Mais c'est une richesse formidable, quoi. C'est-à-dire que moi, quand j'ai commencé, en fait, on n'allait pas... même là, on parle des auteurs, des réalisateurs, réalisatrices, ils avaient moins le réflexe de se dire « Tiens, peut-être je pourrais aller tourner mon film ailleurs qu'à Paris. » Non, mais je ne blague pas, hein, il y avait un peu de ça. Donc, en fait, tout crée de l'incitation, en fait. Et donc, et effectivement, de l'emploi, des techniques, du savoir-faire. Et puis, bah, Michel parle de mes tournées à Paris, c'est difficile, ça coûte cher pour des films comme ceux qu'on produit souvent. Et parce que, voilà, il y a la concurrence, il y a énormément de films, mais c'est toujours souvent beaucoup plus agréable de venir tourner dans une ville en région, parce qu'on est mieux accueilli. Et parce que ça reste plus possible, plus d'obtenir des autorisations, voilà. Donc oui, enfin, peut-être, pardon, on n'en a pas assez parlé, mais et c'est, je pense que c'est une richesse qui économique, mais au-delà de ça, et c'est incroyable de voir les gens quand même. Moi, ça me fascine. Hein. J'ai vraiment sur l'équipe là, j'adore les équipes moi. Mais quand je regarde un peu, je me dis ah oui, voilà, c'est vraiment ces gens sont très bons, compétents et et ils ont développé aussi cette compétence grâce, je pense, aux financements locaux.
Je vais me permettre d'intervenir. Parce que du coup, on aurait un fonds qui serait... Alors, je vais le reformuler avec ta précision, Guillaume. Un fonds qui serait, d'une part, avec un couloir à fort impact d'emploi local et un autre fonds à forte valeur artistique. Je ne sais pas. En tout cas... Je ne sais pas si c'est ce qui va nous arriver ou pas. La précision de l'emploi, elle est évidemment importante. Moi, ce que je voudrais dire aussi, c'est que voilà, il y a des emplois intermittents, il y a des emplois pérennes. C'est très complexe.
Alors ça, peut-être qu'on pense, on n'a pas une vision. Moi, j'ai pas une vision suffisamment large. Ce que je vois, c'est des sociétés locales. La seule chose que je peux dire, c'est que je pense qu'il faut pas trop séparer les choses, quoi. Si je peux dire quelque chose, c'est parce que ça, pour le coup, c'est ça la diversité. En fait, c'est ça. C'est-à-dire que moi, en fait, je pense en général, je défends toujours mes films, etc. Mais on parlait des films américains. C'est vrai qu'au bout d'un moment, je me suis rendu compte que c'est bien d'avoir ces films-là. D'abord parce que ça alimente le fonds de soutien. Et puis, il y a aussi, ça fait partie de l'élan, en fait. Donc, il faut conserver l'élan. Et je pense que l'élan, c'est pas trop séparer les choses, quoi. Voilà. C'est mon expérience. Hein, mais...
je voulais dire un mot aussi à l'autre bout de la filière. Donc, il y a également une manière aussi de réduire le risque, hein, qui est une petite subvention de 20 millions d'euros qui est partagée entre 1300 salles de cinéma en France. Donc c'est le classement ARECE. Je pense que c'est très important. Enfin, en tout cas, moi, c'est mon sentiment que c'est à cet endroit-là que la diversité se joue. Enfin, je le sens en tant qu'exploitant. Hein. C'est là qu'il peut se créer une notoriété sur un film, justement, un outsider qu'on n'a pas vu arriver, sur une cinématographie du monde qu'on ne connaît pas. Et que je ne crois pas qu'on puisse compter véritablement à terme sur les plateformes et les chaînes de télévision pour favoriser la diversité. Je voulais le redire parce que malgré tout, c'est un équilibre. Alors vous dites qu'effectivement, l'année est bonne en ARECE. Elle ne l'est pas forcément tant que ça. Là, on a enfin un film qui a dépassé 1 million d'entrées qui est classé, c'est Emilia Pérez. Mais l'année dernière, à la même époque, on en avait 6. C'est un endroit où on voit de plus en plus de films aussi du milieu, si je puis dire. Enfin voilà, Les Trois Mousquetaires, L'Amour Ouf, etc., qui ne sont pas classés, qui alimentent effectivement des circuits. Et pas du tout, donc nous, notre filière ARECE, et je peux vous dire aussi, je ne pense pas que vous puissiez compter sur les circuits pour favoriser la diversité dans l'avenir. Voilà.
Non, mais on n'a pas dit ça. Hein.
Je ne dis pas que vous l'avez dit.
Non,
mais...
non, c'est bien que vous parliez des salles, évidemment. Moi, quand je parlais de comment est-ce qu'on appelle ça ? C'est la filière, mais cette fois-là, pour la diversité, pour le cinéma indépendant, le cinéma d'auteur, évidemment que la salle de cinéma, c'est fondamental. D'ailleurs, on parlait des réalisateurs et réalisatrices, avec toutes leurs plateformes, etc. Est-ce que vous pensez que la notoriété d'un réalisateur ou d'une réalisatrice existe sur ces plateformes? La réponse est non. Et donc ça, vous, comme exploitant, vous savez bien, le fait de montrer des films, de faire venir les gens, de faire des débats, de faire tout ça, ça se construit. Et cette notoriété, elle constitue aussi l'avenir du cinéma français. Ça commence par là. Il a raison, Jean-Raymond. Ça commence par les auteurs, les réalisatrices, les réalisateurs, les autrices. Et je suis bien d'accord. Hein. Ça passe par la salle. Hein. Là, on est bien d'accord qu'aujourd'hui, je ne pense pas qu'on ait trouvé autre chose pour créer une vraie notoriété sur des films d'auteurs.
Moi, je voudrais...
Et les festivals, évidemment.
Oui. Je voulais vous dire parce que... Effectivement, j'ai été un peu vite dans ma présentation. Hein, j'ai voulu avoir quelques points clés. Mais en fait, dans ce que vous avez dit, on retrouve l'idée que, et c'est notre spécificité française, la logique de cette diversité, elle est sur toute la filière. C'est-à-dire qu'on a une grande différence, par exemple, avec nos amis anglais qui font des efforts en matière de production. Mais par contre, en matière de distribution, il n'y a pas de distributeur indépendant, il n'y a pas de salle indépendante. Donc le combat que vous évoquez d'aller jusqu'au bout de la filière sur la salle et cette diversité de l'exploitation française, effectivement, c'est une variable clé. Parce qu'il suffit qu'il y ait un maillon, on le voit bien à un moment avec les distributeurs, qu'on sait bien la faiblesse aujourd'hui des distributeurs. Il y a toujours des sujets dans la filière, mais on voit bien que la diversité, c'est là qu'elle se crée à tous les stades. Quoi. Mais donc, voilà. Donc, vous êtes content de la réforme RSC ? Oh, les râleurs.
Bon, on va arrêter là pour ce premier moment. Merci beaucoup, Milena et Michel, merci.
On va faire une petite pause de 5-10 minutes si vous voulez et on reprend tout de suite après. Merci beaucoup.